Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes, les couples pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Chaque semaine, je vous propose des informations et des conseils à travers de témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour.
Bonjour Dr Daoun, comment allez-vous ?
Bonjour Lisa, très bien et vous ?
Ça va, merci. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur Parlons PMA pour parler donc de l'infertilité masculine. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Moi, je m'appelle Mehdi Daoun, je suis médecin biologiste de la reproduction, je suis également andrologue. En gros, pour faire simple, je supervise la partie biologique dans le parcours de AMP, assistance médicale à la procréation, et par ailleurs, pour ma deuxième casquette, je prends en charge l'infertilité masculine pour le côté clinique et le côté biologique également.
D'accord, très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'infertilité masculine. C'est vrai qu'on parle souvent de l'infertilité chez les femmes et un peu moins chez les hommes. Alors qu'en est-il réellement en ce qui concerne finalement la répartition de ces causes d'infertilité ?
Alors, tout d'abord, je souhaiterais quand même définir une infertilité. Une infertilité, c'est une incapacité d'un couple à procréer ou à mener une grossesse à terme au bout d'une année de rapports sexuels fréquents et réguliers non protégés. Et dans ces cas-là, en fait, on commence à explorer une infertilité qui peut avoir une origine purement féminine. Et là, on serait dans le tableau de l'infertilité féminine qui représenterait un tiers des cas d'infertilité. Une infertilité d'origine masculine qui représenterait également un tiers des cas d'infertilité. L'infertilité peut être également mixte, à la fois féminine et masculine. Et dans un tiers des cas. Et dans moins de 10% des cas, on dit que l'infertilité peut être inexpliquée, c'est-à-dire sans aucune cause retrouvée, aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme.
D'accord, très intéressant. Et quelles sont les causes principales finalement d'infertilité masculine ?
Les principales causes d'infertilité masculine peuvent être réparties en deux grands groupes, ce qu'on appelle l'infertilité masculine d'origine obstructive et non obstructive. Alors, quand on dit obstructive, c'est-à-dire qu'au niveau de l'anatomie urogénitale ou du pelvis masculin, donc il y aurait un obstacle quelque part à l'excrétion, donc à la libération quelque part des spermatozoïdes dans l'éjaculat. A contrario, une forme non obstructive, ou plutôt dite sécrétoire, c'est-à-dire que l'usine, le testicule, n'aurait pas tous les éléments ou les ingrédients pour pouvoir produire des spermatozoïdes. Donc, il y a différentes causes. À partir du moment où on répartit les causes dans ces deux grands chapitres, donc dans les causes non obstructives, ça peut être un testicule qui n'est pas descendu au niveau des bourses à la naissance, et ce qu'on appelle les cryptorchidies. Ça peut être une cause génétique, les anomalies, en fait, des anomalies chromosomiques ou une partie du chromosome Y qui serait également le siège d'une atteinte génétique qu'on appelle la microdélétion du chromosome Y. Ça peut être aussi des varicocèles que l'on va peut-être détailler au cours de ce podcast. Donc, on expliquera la varice ou varicocèle dans un petit moment. Des causes tumorales également, donc, qui peuvent être à l'origine d'une perturbation de la production des spermatozoïdes. Les antécédents également médicaux, chirurgicaux du patient, donc les antécédents de chimiothérapie, par exemple, chez les patients qui auraient subi un traitement qui pourrait altérer la production des spermatozoïdes, c'est des patients qui seraient amenés à être suivis en AMP, en assistance médicale à procréation. Et puis, il y a toutes les séquelles d'un traumatisme au niveau testiculaire, ça peut être une torsion au niveau d'un testicule, un traumatisme au niveau scrotal. Voilà, donc ça, ces causes-là pourraient être à l'origine d'une infertilité masculine avec une composante plutôt sécrétoire, on va dire. C'est-à-dire que c'est l'usine qui n'aurait pas tous les éléments pour pouvoir produire suffisamment de spermatozoïdes. Dans la composante obstructive, comme je vous l'avais expliqué, c'est plutôt un obstacle dans la progression des spermatozoïdes. Donc, ça peut être une origine génétique. Hein, on parlera d'une mutation qu'on recherche très souvent dans nos explorations, qui est mise en évidence également dans les cas de mucoviscidose, qu'on appelle la mutation CFTR. Ça peut être aussi des séquelles infectieuses, c'est-à-dire que le patient, dans son parcours, il aurait eu une infection urogénitale qui aurait pu être à l'origine d'un obstacle ou d'une obstruction, et donc expliquant en fait la difficulté qu'il pourrait rencontrer. Voilà, donc, disons qu'il y a différentes causes, différentes étiologies, raison pour laquelle on mettra en place toute une exploration permettant en fait de distinguer les deux composantes, sécrétoire et non sécrétoire, obstructive, non obstructive, et donc pour pouvoir identifier une cause. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où on est malheureusement entouré de perturbateurs endocriniens, donc il y a des facteurs environnementaux qui, de manière directe ou indirecte, pourraient également agir sur la production des spermatozoïdes, donc sur la fertilité masculine. Donc j'entends par là les facteurs alimentaires, les ondes wifi et un tas de choses, hein, les facteurs polluants. Donc voilà, il y a quand même une cause directe, hein, qui pourrait être mise en évidence et être à l'origine à la fois d'une cause obstructive versus une cause non obstructive. Et puis il y a les facteurs environnementaux, les facteurs, j'entends par là les perturbateurs endocriniens.
D'ailleurs, en parlant des facteurs environnementaux, il me semblait qu'il y a certaines professions, par exemple chez l'homme, qui impactent la qualité des spermatozoïdes. Je ne sais pas, par exemple, j'avais entendu des boulangers ou des. C'est vrai, enfin, vous confirmez.
Alors, bien évidemment, les facteurs environnementaux, on les citera peut-être en premier lieu, avant même de commencer à rechercher une cause, j'ai envie de dire, puisqu'on est exposés tous au même risque avec des susceptibilités individuelles. Il y a des facteurs professionnels, comme vous le dites, notamment une exposition à une source de chaleur. Donc, vous avez cité l'exemple des chefs cuisiniers ou des boulangers qui seraient exposés à une source de chaleur. Je rappelle que le testicule est en dehors du corps humain pour la simple et unique raison, pour mieux conserver la production des spermatozoïdes. Autrement dit, lorsque la température au niveau des testicules a tendance à augmenter, forcément, la production des spermatozoïdes pourrait être altérée. Alors, il n'y a pas que l'exposition à une source de chaleur, ça peut être aussi une position assise prolongée, donc il y a des métiers ou des professions à risque où on est amené à être assis constamment, confiné sur une chaise, du matin jusqu'au soir. Ça pourrait être un facteur, je ne dis pas que c'est une cause directe, mais ça peut être un facteur qui pourrait quelque part majorer une éventuelle dégradation de la production des spermatozoïdes. On n'insistera jamais assez sur les règles d'hygiène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à avoir quelques pas ou quelques mouvements quand on est sur son lieu de travail pour justement éviter de se retrouver confiné sur un siège devant un écran ordinateur. Alors, bien évidemment, on ne va pas demander à un boulanger de changer de métier, mais de prendre ses précautions, bien évidemment, de ne pas enchaîner une heure ou deux ou trois heures ou deux face à un fourneau, par exemple. Donc, il y a quand même tout un travail sur les facteurs environnementaux de manière générale. Alors, il y a certains qu'on peut maîtriser, forcément. Il y a d'autres où, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose.
Ouais, merci beaucoup pour ces explications. C'est très clair et c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense spontanément au niveau de la fertilité masculine. Et je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est pour un couple qui souhaite concevoir, à partir de quel moment, en fait, on doit commencer à faire des examens chez l'homme?
D'accord. Alors, j'ai envie de dire, on prend en charge un couple, Lisa. Donc, à partir du moment où on reçoit un couple en consultation d'infertilité, l'homme a toute sa place dans le parcours et il doit être pris en charge en même temps que la partenaire ou la conjointe. C'est-à-dire que lorsque, alors je reprends un peu le par ordre chronologique, lorsque le couple ou la femme, la conjointe a moins de 35 ans et que les rapports sexuels sont fréquents et réguliers, je rappelle que la moyenne, c'est entre 2 et 3 rapports sexuels par semaine. Pas de contraception, bien évidemment. La régularité et la fréquence des rapports sexuels, au bout d'un an, pas de début de grossesse, on lance les premiers bilans. ce sont des examens de première intention qui sont prescrits, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors, comme aujourd'hui, on aborde le versant masculin, on va commencer par faire simple chez l'homme, prescription d'un spermogramme. Pour les patientes de plus de 35 ans, on attendra peut-être un peu moins, on n'attendra pas aussi longtemps, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois de rapport sexuel fréquent et régulier, prescription d'examen, aussi bien pour madame que pour monsieur, et du côté de monsieur, on commencera par la prescription d'un spermogramme.
D'accord. Donc, effectivement, on va étudier les deux facteurs, enfin, les deux côtés, chez madame et chez monsieur. Et donc, on prescrira en première intention un spermogramme, c'est ça? Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un spermogramme? Comment ça se passe? Parce que...
Alors, le spermogramme est un examen biologique donc, qui consiste à analyser les paramètres spermatiques et je vais détailler à quoi correspondent ces paramètres spermatiques. C'est un examen de sperme. L'examen est réalisé par masturbation, donc avec un recueil de sperme dans un laboratoire de spermiologie. Le prélèvement en question est techniqué dans un laboratoire et donc un certain nombre d'éléments seront évalués. Donc, on commence par évaluer le volume de l'éjaculat, qui doit être supérieur ou égal à 1,5 ml, après un délai d'abstinence compris entre 2 et 5 jours. Seront également analysés donc, le pH, la viscosité du prélèvement. On évalue également la part des cellules rondes, hein, qui peuvent parfois correspondre à des polynucléaires. Ce sont des cellules de la défense immunitaire. Donc, ce sont des paramètres qui sont étudiés lors de l'analyse du sperme du patient. Et puis ensuite, on établit une numération, on va compter les spermatozoïdes par millilitre. Donc, c'est une concentration qu'on va remettre hein, par millilitre d'éjaculat. Donc, la moyenne, c'est 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme éjaculé. Et donc, ensuite, on va, donc, dans le cadre diagnostique, on peut procéder à des techniques de coloration qui permettent d'évaluer le pourcentage des spermatozoïdes vivants, hein, sachant que le seuil est fixé à 58%. Et puis après, si les spermatozoïdes sont vivants, c'est que quelque part, ils peuvent se déplacer et on vous parlera de mobilité. Alors, un spermatozoïde, il a différentes manières de se comporter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se déplacer de manière directe en fléchette et on va le mettre en mobile A, c'est un mobile progressif A. Il peut avoir une progression un peu plus lente, donc on dira qu'il est un peu plus paresseux et donc il est toujours progressif et on le mettra en mobile B. On comprendra facilement que ce sont les mobiles A et les mobiles B qui vont nous intéresser. Et donc, dans un spermogramme ou sur un spermogramme, il faudrait qu'on ait au moins 32% de mobiles progressifs A plus B. Les spermatozoïdes qui seront notés en mobile C, c'est-à-dire que ce sont des spermatozoïdes qui sont mobiles, mais qui font du surplace. Hein, c'est des mobiles surplace, ils tourneront, on va dire. Donc, ceux-là aussi ils seront évalués. Et quand un spermatozoïde ne bouge pas, eh ben, il est dit immobile, mais il peut être mort également, mais on le mettra en D. Donc, en gros, la mobilité, elle se répartit en fonction de la cinétique de déplacement des spermatozoïdes. A, B, C, D, mobilité progressive AB, mobilité totale ABC. Donc là, c'est un élément qui est important, notamment pour la suite de la prise en charge. À côté de cela, on a la numération qui va quelque part nous orienter, la vitalité, la mobilité. Et puis très souvent, associé à un spermogramme, on étudie la morphologie du spermatozoïde. La morphologie du spermatozoïde est réalisée par des techniques de coloration dans un laboratoire de spermiologie et cet examen va permettre d'évaluer le pourcentage de formes typiques hein, de spermatozoïdes sans anomalie, aussi bien au niveau de la tête, de la pièce intermédiaire et le flagelle. Je rappelle qu'un spermatozoïde, c'est comme un petit étard avec 3 structures qui vont le définir, une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Et donc, le but de cet examen, c'est de dire, bah, sur 100 spermatozoïdes, sur une centaine de spermatozoïdes analysés, je vais avoir tant de spermatozoïdes typiques, sans anomalie, versus un pourcentage de spermatozoïdes atypiques présentant un ensemble d'anomalies qui peuvent intéresser la tête, la pièce intermédiaire, le flagelle ou 2 structures, ça peut être tête, pièce intermédiaire, flagelle, tête, flagelle. Voilà, c'est une étude, on va dire, plus ou moins détaillée. Donc, il y a plusieurs classifications. On retient 2 classifications dans notre interprétation des spermocytogrammes. Et donc, on établit des seuils, en fait. Et donc, pour avoir un seuil, on va dire, de satisfaisant, il faudrait, selon la classification David modifiée, un pourcentage entre 15 et 23% de formes typiques. Une autre classification également utilisée dans des laboratoires en France, qu'on appelle le Kruger, où le seuil est fixé à 4%. Alors, quand on réalise un spermogramme et qu'on réceptionne des résultats, on peut être surpris par un certain nombre d'appellations qui sont mentionnées au niveau de la conclusion. J'entends par là l'oligo, la sténo, tératosospermie. Chaque appellation correspond à un élément ou à un paramètre qui a été étudié au cours de ce spermogramme. Quand on parle d'oligosospermie, cela définit une baisse de la concentration ou du nombre de spermatozoïdes. La nécrosospermie, elle correspond à une diminution du nombre de spermatozoïdes vivants. L'asténospermie vient du mot asthénie, donc pour dire fatigue. Ce sont des spermatozoïdes qui ont du mal à se déplacer, donc il y a une baisse de la mobilité des spermatozoïdes. Et puis la tératosospermie, quand on précise une tératosospermie dans une conclusion, c'est que les spermatozoïdes se présentent avec une morphologie qui est très typique, qui est très diminuée. Donc il y a une baisse du pourcentage de forme typique. Donc voilà. Il faut pas, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter au médecin prescripteur ou même au biologiste qui remet en main propre les résultats du spermogramme, une interprétation des résultats mentionnés dans les conclusions des spermogrammes. Donc voilà, pour résumer, le spermogramme, spermatogramme, très souvent c'est deux examens qui vont ensemble. On peut prescrire également ce qu'on appelle une spermoculture. Alors, la spermoculture, c'est un examen qui permet quelque part de rechercher des bactéries dans le sperme. Donc c'est une recherche directe dans le liquide séminal. C'est un examen qui est très souvent prescrit lorsqu'on prévoit une prise en charge en AMP par différentes techniques, insémination, fécondation in vitro. Voilà, mais qui peut être prescrit non pas en première intention. Alors il y a ceux qui le prescrivent en première intention, mais qui peut être prescrit également aussi en deuxième intention.
D'accord. Simplement pour revenir un petit peu sur les conclusions du spermogramme, souvent c'est un peu stressant pour les patients parce qu'ils voient tous ces termes-là, mais c'est vrai que finalement, au vu de ces différentes appellations, en termes d'AMP dans la prise en charge, il y a des solutions pour les prendre en charge.
Alors oui, absolument. Il y a différentes façons de prendre en charge ces anomalies. Alors ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un seul spermogramme, hein, des résultats obtenus à part d'un seul spermogramme. Pourquoi? Parce que lorsque le patient réalise son prélèvement de sperme, on a quelque part un reflet de ce qu'il a produit au cours des 3 derniers mois avant le recueil de sperme. Je rappelle que le cycle d'une spermatogénèse, le processus qui permet la production des spermatozoïdes, dure 74 jours, à raison d'un cycle toutes les 2 semaines. Et donc, de ce fait, pour peu qu'il y ait un événement intercurrent, un gros élan inflammatoire, une infection, une fièvre, un traumatisme, un gros stress physique, cela pourrait avoir un impact sur la production des spermatozoïdes. Raison pour laquelle on demande toujours à contrôler les résultats obtenus à partir d'un premier spermogramme. Hein, c'est pour ça que les patients sont très souvent surpris qu'on prescrive un deuxième, voire un troisième spermogramme. Cela permet d'avoir une cinétique sur la production des spermatozoïdes, de voir s'il y a eu un événement, de vérifier avec le patient, hein, via un interrogatoire ou l'anamnèse, s'il y a eu un événement intercurrent expliquant cette dégradation, cette perturbation de la production des spermatozoïdes. Dans tous les cas, ça mérite quand même un contrôle sur un second spermogramme. Bien évidemment, tout en respectant les délais d'abstinence avant la réception du recueil, il faut que toutes les informations soient transmises aux patients. Si les résultats sont confirmés sur un deuxième spermogramme et qu'on retrouve les mêmes anomalies, alors on peut se permettre justement à ce moment-là d'élargir les investigations, d'aller un peu plus loin en exploration. Très souvent, on peut être amené à prescrire d'autres examens complémentaires. Une échographie testiculaire qui peut être couplée à une échographie endorectale s'il y a lieu d'explorer la partie haute de la sphère génitale, prostate et vésicule séminale. On peut être amené également à prescrire des dosages hormonaux. Et ça revient à ce que je disais en début de nos échanges, c'est que chez l'homme, ce n'est pas compliqué. Il y a deux grandes hypothèses diagnostiques ou étiologiques. La tuyauterie se porte bien, mais le testicule ne produit pas suffisamment de spermatozoïdes, donc l'usine est impactée, et donc on est dans une composante non obstructive, mais plutôt sécrétoire. Et là, d'où l'intérêt de l'exploration hormonale, dosage hormonaux, voire même des bilans génétiques si besoin. On peut être amené à prescrire un karyotype dans certains cas, versus la tuyauterie est le siège d'obstacles, où parfois une partie de la tuyauterie est absente à l'examen clinique, lorsqu'on palpe le scrotum du patient. Et là, l'échographie trouve toute sa place. Je vous dis, donc, à partir d'un spermogramme, un deuxième spermogramme, confirmation des précédents résultats, et on va un peu plus loin en termes d'exploration. Hein, c'est vraiment pour essayer, pas pour essayer, c'est pour apporter une explication à la difficulté que présente le patient dans le parcours d'AMP. Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais très souvent, quand on confirme les résultats d'un premier spermogramme sur un second recueil de sperme, donc en vue d'un deuxième spermogramme, et que lorsque la piste de prise en charge en AMP se confirme, on prescrit très souvent ce qu'on appelle un test migration et survie, hein, ce qu'on appelle le fameux TMS, test migration et survie. C'est un examen qui permet quelque part de sélectionner les spermatozoïdes selon leur mobilité et leur densité. On met le tube à tourner, hein, contenant l'échantillon de sperme. Il y a plusieurs étapes dans la préparation et dans la technique de préparation de sperme, notamment dans cet examen-là. Et donc, au final, on a un culot final que l'on récupère dans le fond du tube. Et c'est ce culot, en fonction du nombre de spermatozoïdes et de mobiles progressifs, les A plus B, hein, que j'avais cités en interprétant les paramètres spermatiques, en fonction du nombre qui est récupéré dans le fond du tube, on pourrait envisager telle ou telle technique en AMP, tout en tenant compte des explorations côté gynéco. Ça, c'est pour anticiper un peu la prise en charge en PMA. Donc, je reviens pour faire simple et pour résumer. Le spermogramme en première intention, on vérifie sur un second recueil, un deuxième prélèvement de sperme, les résultats donc du premier spermogramme. Si besoin, on complète par d'autres explorations, dosage hormonaux, échographie, plus ou moins génétique. Parfois, on peut être amené à prescrire également de la biochimie séminale. J'en parlerai pas aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, il y a d'autres examens nécessaires. Et puis, quand on sait que le couple sera, quoi qu'il en soit, pris en charge en PMA ou en AMP, ben à ce moment-là, on peut être amené à rajouter un test migration et survie qui permet quelque part de conditionner le choix de la technique qui sera proposée dans un parcours de PMA.
D'accord. Et donc, lorsqu'il y a des infertilités masculines, finalement, comment est-ce qu'on peut améliorer le taux de succès? Quels sont les traitements concrètement qu'on peut proposer? Et quelles sont les techniques qu'on peut proposer au laboratoire?
Alors, je vais peut-être répondre en plusieurs temps, si vous le permettez, Lisa.
Oui, c'est beaucoup de questions à la fois, pardon.
Non, mais de manière générale, ce qu'on ne manquera pas de dire ou de préciser en consultation d'andrologie, c'est pour un patient lambda qui se présente avec deux spermogrammes et qui s'interroge sur sa fertilité, d'abord j'insisterai sur les facteurs environnementaux et l'hygiène de vie, avant de parler de tout traitement. C'est-à-dire que si le patient est en surpoids, ben, on conseillera l'activité physique régulière adaptée, la perte de poids. Pour quelle raison? Ben, je reviens toujours à cette histoire de température. Le scrotum est toujours à une température inférieure à celle du corps. On est autour de 34,5-35 degrés. Alors, bien évidemment, quand il y a des facteurs qui vont faire en sorte que la température au niveau génital soit un peu plus augmentée, ben, ça peut impacter la production des spermatozoïdes. Donc, la perte de poids, s'il y a une notion de surpoids, l'activité physique régulière et adaptée, l'arrêt impératif du tabac, parce que le tabac à lui seul, c'est un facteur, mais c'est aussi une cause d'infertilité masculine. On n'insistera jamais sur le sevrage tabagique, hein, l'hygiène de vie, le régime alimentaire, le fractionnement des repas, prendre le temps de bien manger, de ne pas manger trop riche le soir, d'améliorer en fait son quotidien et surtout d'améliorer son hygiène de vie. Alors bien évidemment, il y a des facteurs maîtrisables, plus ou moins, d'autres un peu moins. Alors, les facteurs professionnels, malheureusement, quand on est exposé à une source de chaleur, on essaie de se protéger du mieux qu'on peut, mais disons qu'on ne pourra pas tout contrôler. Mais ça contribue à améliorer et à protéger les testicules et donc, en l'occurrence, la production des spermatozoïdes. Alors, par la suite, je reviens à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire que si une cause est identifiée et si un projet thérapeutique est proposé au patient, il faudra traiter, bien évidemment, la cause en question. Je prends le cas, par exemple, des varicocèles. C'est une pathologie qui est fréquente chez l'homme. Ça peut toucher un homme sur quatre, voire un homme sur trois. En gros, la varicocèle, c'est des varices au niveau du testicule. Ce n'est pas si rare que ça. C'est le même mécanisme physiopathologique que les varices que l'on pourrait avoir au niveau des membres inférieurs. Sauf que là, la varice, elle va siéger au niveau scrotal. Et donc, je ne vous apprends rien. Donc, il y a une varice, il y a une stagnation, une stase de sang veineux de manière très schématique. Il y a du sang veineux qui stagne, le sang veineux est chaud, donc ça surchauffe le testicule. Donc, c'est tout le système de climatisation du testicule qui est compromis. Ça libère des métabolites qui sont toxiques pour le testicule et donc pour la production des spermatozoïdes. Et donc, ça pourrait altérer en fait la production des spermatozoïdes. Très souvent, la varicocèle est asymptomatique, mais elle peut être symptomatique chez certains patients. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à traiter les varicocèles lorsqu'on est dans un tableau d'infertilité masculine, lorsque tout est OK sur le plan gynéco, on est en dehors du contexte mixte, et ça va dépendre également de l'âge de la patiente, hein, bien évidemment, pour pouvoir envisager le traitement de la varice. C'est un exemple que je cite parce que c'est une cause qui n'est pas si rare que ça.
Et pardonnez-moi, donc pour le traitement de la varicocèle, il s'agit d'une chirurgie ?
Alors, il y a deux façons de faire. Il y a deux possibilités de prise en charge thérapeutique de la varicocèle. La varicocèle peut être traitée en radiologie interventionnelle, donc par radioembolisation. On obstrue la veine qui est à l'origine de ce reflux. D'accord. Mais elle peut être également traitée aussi par chirurgie. Donc, en urologie, c'est de la microchirurgie. Donc, en fait, en gros, on ligature la veine qui est à l'origine du reflux. Donc, voilà, ce qui est plus rapide et moins invasif, c'est l'embolisation, mais qui a toutes ses indications également, tout comme la chirurgie qui a toute sa place également, qui a ses indications, mais qui reste un peu plus invasif puisqu'on endort le patient et puis c'est quand même ça reste un geste chirurgical.
D'accord. Et au niveau du laboratoire, je crois qu'il y a plusieurs techniques finalement. Si les patients se lancent dans une FIV, souvent on parle de l'ICSI, de l'IMSI. Ça, ce sont des techniques finalement qui permettent de corriger un spermogramme qui ne serait pas parfait, si je peux dire, entre guillemets.
Alors, quand l'indication est posée et lorsque le projet parental en AMP est confirmé par une technique de fécondation in vitro, secondairement, on a quand même réceptionné un certain nombre d'examens aussi hein, du côté de madame que du côté de monsieur. Donc, on va commencer par définir en fait les différentes techniques de prise en charge en AMP. Et je reviens à cet examen-là que j'avais cité juste après avoir parlé du spermogramme, le test migration et survie. C'est cet examen-là qui, quelque part, va conditionner le type de prise en charge, la technique qui sera proposée au couple en AMP. Bien évidemment, cet examen, il ne peut valider une technique en tenant compte du versant féminin. C'est-à-dire que je prends différents cas de figure. Je reviens au cas qu'on avait cité en début de notre podcast, l'infertilité inexpliquée, tout est OK du côté de madame, tout est OK du côté de monsieur, test migration et survie avec une très bonne récupération, avec un très bon rendement, avec un nombre de spermatozoïdes suffisant dans la fraction finale, dans le culot qui a été récupéré à la fin de la centrifugation, ben là, on partirait sur une insémination, et ce d'autant si le couple est jeune. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire que si on a de bons résultats au spermogramme et au TMS et que madame a des trompes perméables avec des cycles réguliers, avec elle est jeune, à ce moment-là, insémination. Maintenant, si pour X raisons, on a une indication féminine avec de bons paramètres spermatiques et une bonne préparation, un bon culot récupéré à la fin de la centrifugation, on pourrait tenter la fécondation in vitro. On a une cause féminine. On ne va peut-être pas aborder aujourd'hui les différentes causes. Je prends le cas de l'obstruction tubaire. Il y a un obstacle au niveau des trompes. On sait très bien que la grossesse spontanée n'est pas possible, naturelle n'est pas possible dans ce cas de figure-là. Donc, on prend en charge le couple en technique de fécondation in vitro classique. Donc, à ce moment-là, c'est récupérer les ovocytes suite à un protocole de stimulation, préparation de sperme. Les ovocytes seront entourés de toute une population de spermatozoïdes, on va dire, efficaces et coriaces, puisqu'on va mettre en fécondation avec des spermatozoïdes mobiles progressifs. Donc ça, c'est la forme classique de la fécondation in vitro. Alors l'ICSI, c'est c'est une technique de fécondation in vitro, mais dite assistée. C'est-à-dire qu'on va, suite à un protocole de stimulation, récupérer les ovocytes. Les ovocytes donc récupérés par ponction, analyse des liquides folliculaires, par après analyse des liquides folliculaires, les ovocytes matures seront micro-injectés avec le spermatozoïde du conjoint. Là, on comprend par là que la quantité en spermatozoïdes est faible. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ils ne pourront pas en fait, aller vers l'ovocyte et féconder l'ovocyte comme l'on pourrait l'espérer dans le cas d'une FIV classique. On va dire que là, on aide le spermatozoïde à se mettre à l'intérieur même de l'ovocyte sous contrôle microscopique. Donc, on parle de micro-injection intra-ovocytaire, et on comprend par là que cette technique est proposée dans le cas d'une infertilité masculine. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse ICSI, c'est de la FIV avec micro-injection. Alors, il y a une autre technique aussi, c'est la technique jumelle, en fait, qu'on appelle l'IMSI. C'est exactement le même principe, sauf qu'on utilise un microscope à plus fort grossissement. Mais la littérature démontre qu'il n'y aura pas forcément plus de fécondation ou de grossesse en IMSI plus qu'en ICSI. Donc, mais elle peut trouver également ces indications dans certains cas de figure. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais elle peut être...
Donc, on va sélectionner finalement en ICSI, IMSI, un peu les champions, non, qui ont été récupérés lors du recueil, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça. Alors, bien évidemment, entre le recueil et la micro-injection, il y a quand même différents, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a quand même toute une étape de préparation de sperme. Donc, c'est des techniques de préparation de sperme. Dans le cas de diagnostic, j'avais parlé du test migration et survie, hein, qui permet quelque part de conditionner le choix de la technique qui sera proposée au couple en tenant compte des deux versants, masculin et féminin. Mais concrètement, sur terrain, le jour J, le sperme est préparé de la même manière qu'un test migration et survie. C'est-à-dire qu'on va sélectionner selon le gradient et selon la mobilité des spermatozoïdes. D'accord. Jusqu'à l'étape de la micro-injection ou qui consiste à mettre le spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovule.
D'accord. Et finalement, dans quelle situation on va choisir de faire plutôt une FIV ICSI qu'une FIV classique ?
Alors, la FIV classique, comme je l'avais expliqué, en fait, c'est une rencontre entre spermatozoïdes et ovocytes au sein d'une goutte, hein, contenant un milieu de culture. Donc, la condition, c'est que les spermatozoïdes sont en quantité suffisante. Il faut qu'ils soient en quantité suffisante, avec une mobilité suffisante. Autrement dit, il faut qu'on ait de très bons paramètres spermatiques sur au moins 2 spermogrammes, avec un bon rendement, avec une bonne sélection au test migration et survie. Hein, donc, c'est en fait la FIV classique, avec une simple rencontre entre gamètes. A contrario, l'ICSI, elle trouve toute sa place dans le cas d'une infertilité masculine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une diminution importante du nombre de spermatozoïdes, lorsque la mobilité est très diminuée, avec une diminution du pourcentage de forme typique, bien évidemment, on évitera de laisser les spermatozoïdes se débrouiller tout seuls pour aller à la rencontre de l'ovocyte. Dans ces cas-là, on préfère procéder à une micro-injection intra-ovocytaire, le spermatozoïde sera directement injecté à l'intérieur de l'ovocyte. Donc, j'ai envie de dire, la FIV classique a toute sa place lorsque les paramètres spermatiques sont bons, voire très bons, d'accord ? Et notamment lorsqu'il y a, dans des tableaux d'infertilité secondaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une grossesse au sein du couple, donc quelque part, le pouvoir fécondant a été démontré au sein du couple, donc raison pour laquelle on proposera de la FIV classique. En revanche, l'ICSI, c'est qu'il y a une part masculine dans un premier temps. Je parle vraiment des premières indications, hein, dans la prise en charge en AMP, une altération franche des paramètres spermatiques, donc les oligos, asténospermies, hein, qui peuvent être mentionnées dans une conclusion. Si ces résultats-là se confirment sur un deuxième spermogramme, c'est en effet une indication à proposer de l'ICSI.
D'accord, très bien. D'accord. Et j'avais une autre question. On parle souvent de prélèvement chirurgical des spermatozoïdes. En quoi consiste ce geste exactement ?
Alors, avant de répondre à votre question, Lisa, il y a une indication précise au prélèvement chirurgico-épididymo-testiculaire. Et je vais expliquer en quoi consiste ce prélèvement-là. Très souvent, on rencontre des patients qui viennent nous voir affolés, stressés, angoissés, parce que sur un premier spermogramme, on note absence totale de spermatozoïdes sur la totalité de l'éjaculat avant et après centrifugation. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune trace de spermatozoïdes dans le prélèvement de sperme qui a été analysé au laboratoire. Alors, on ne pourra parler d'azoospermie que s'il y a eu un deuxième recueil de sperme qui va confirmer les résultats du premier recueil. Hein, qu'on soit d'accord, parce que ce n'est pas à partir d'un spermogramme qu'on pourra identifier une azoospermie. On parlera d'absence totale de spermatozoïdes, mais l'azoospermie ne peut être confirmée que sur 2 prélèvements de sperme, idéalement à 3 mois d'intervalle, hein, le temps du cycle de spermatogénèse, mais très souvent, on confirme au bout de 3 semaines à 1 mois avoir un deuxième recueil de sperme. Donc, s'il n'y a pas de production de spermatozoïdes, je reviens à mes grandes hypothèses diagnostiques. Obstructif, non obstructif, tout est OK au niveau de la tuyauterie, mais l'usine ne produit pas, et là, ne produit pas du tout. Donc, on est dans une azoospermie non obstructive, mais plutôt sécrétoire, c'est-à-dire que le testicule n'a pas tous les éléments pour pouvoir produire des spermatozoïdes ou pas suffisamment d'éléments. Et puis, à contrario, ça peut être un problème obstructif, c'est-à-dire que l'usine, quand je dis usine, c'est le testicule se porte bien, théoriquement, il devrait produire suffisamment de spermatozoïdes, mais par contre, aucune trace dans l'éjaculat. Donc, pour pouvoir récupérer ces spermatozoïdes, le chirurgien andrologue aborde le testicule chirurgicalement pour réaliser des prélèvements au niveau de la pulpe testiculaire, pour prélever ce qu'on appelle des tubes séminifères. C'est la partie de l'usine qui produit les spermatozoïdes. Et cette pulpe, elle sera analysée en temps réel quand le bloc opératoire est équipé d'un microscope avec un chirurgien, un biologiste qui travaille étroitement pour dire si il y a la moindre trace de spermatozoïdes. Et puis, il y a une partie de l'échantillon ou de la pulpe qui sera adressée au laboratoire d'AMP pour une analyse, une dissection pour pouvoir analyser le fragment en question et repérer des spermatozoïdes. Donc, la biopsie testiculaire, donc c'est le testicule qui peut être biopsié, donc c'est un prélèvement au niveau de la pulpe. On peut prélever également une partie de la tuyauterie qui se trouve au-dessus du testicule. C'est un conduit qu'on appelle l'épididyme. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un prélèvement chirurgical épididymo-testiculaire. Donc, on peut prélever sur ces deux sites. Très souvent, ces prélèvements sont réalisés sous microscope, donc au bloc opératoire, ce qu'on appelle la microthésée. Donc, c'est un prélèvement chirurgical qui est réalisé par le chirurgien au bloc sous contrôle microscopique. Lorsque ces spermatozoïdes, lorsque ces prélèvements arrivent au laboratoire et que les spermatozoïdes sont mis en évidence, ces spermatozoïdes seront cryoconservés. Cryoconservation pour un projet parental ultérieur par technique d'ICSI. Et on parle de l'ICSI BT. Asynchrone, c'est-à-dire qu'on va injecter dans chaque spermatozoïde un ovocyte lorsque la patiente ou la conjointe sera stimulée, ponctionnée avec un recueil ovocyte. Donc là, lorsque les spermatozoïdes sont cryoconservés, ils pourront servir pour un projet parental dans un second temps. Parfois, on peut être amené à réaliser le geste simultanément, c'est-à-dire que madame est stimulée, ponctionnée, récupère les ovocytes, monsieur est au bloc opératoire pour sa biopsie testiculaire, et donc ensuite, on injecte. Donc, au laboratoire, dans chaque ovocyte, un spermatozoïde prélevé chirurgicalement. On a abordé la zoospermie. Je rajouterai juste une petite réflexion, une petite remarque sur ce qu'on appelle la cryptozoospermie. La cryptozoospermie, c'est une absence de spermatozoïdes à la première analyse. Quand on récupère le prélèvement de sperme du patient, on l'analyse entre lame et lamelle sous microscope, pas de spermatozoïdes. On met le tube à tourner, centrifugation, et là, on retrouve des spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle la cryptozoospermie. Et parfois, quand ça ne marche pas avec des spermatozoïdes récupérés après technique de centrifugation, on peut être amené également à réaliser un geste chirurgical, c'est-à-dire la biopsie testiculaire, pour récupérer des spermatozoïdes de la source. Et donc, procéder de la même manière à une ICSI dans un second temps, une technique de micro-injection.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Je pense que ça va intéresser nos auditeurs, nos auditrices, parce que c'est des informations finalement qu'on a du mal à avoir, en tout cas de manière générale. Donc vraiment merci pour toutes ces explications. Et pour terminer, souvent les patients demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la qualité spermatique. Alors on a parlé des facteurs environnementaux, on a parlé de l'hygiène de vie. Est-ce que finalement dans certains cas il faut envisager une supplémentation particulière, alors que ce soit, je ne sais pas, peut-être au niveau nutrition ou pas complément alimentaire ou médicaments, qu'est-ce que vous pouvez, pas forcément recommander, mais en tout cas, quelles sont les choses qui peuvent se faire, qui sont évidemment à évaluer au cas par cas, selon le cas des patients, et surtout pas chacun décider par eux-mêmes de faire ça, parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir la recommandation d'un médecin. Mais en tout cas, quelles sont les options finalement qu'on peut avoir dans ces cas-là?
Pour répondre à votre question, Lisa, je pense que de manière générale, on n'insistera jamais assez sur les règles d'hygiène, sur l'amélioration de son mode de vie. Donc, j'entends par là le régime alimentaire, le fractionnement des repas, on évitera de manger riche et lourd le soir avant de se coucher. Le sommeil est très important, notamment dans la fertilité. Il y a des études qui se développent et qui sont en cours et qui vont dans ce sens. La perte de poids, l'activité physique régulière adaptée, les éjaculations fréquentes et répétées, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que lorsque le délai d'abstinence est relativement long, ça peut fausser l'interprétation des paramètres spermatiques s'il y a lieu de réaliser un spermogramme. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les éjaculations qui boostent la production des spermatozoïdes. Donc, plus un homme éjacule et mieux c'est dans un parcours de projet parental. Donc, il y a aussi après toutes les supplémentations en antioxydants, en oligo-éléments, différentes supplémentations vitaminiques sont proposées sur le marché. Après, l'idée, c'est quand même, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus se retrouver en surdosage. C'est-à-dire qu'il faut faire particulièrement attention. Il faut pas hésiter à poser les questions qu'il faut au médecin prescripteur, au médecin qui suit le couple dans le parcours PMA, sur une éventuelle supplémentation d'antioxydants, un apport un apport vitaminique également. Voilà, après, il faut juste trouver la bonne formule et puis partir sur une supplémentation qui ne doit pas dépasser les 3 à 6 mois. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on prend des vitamines qu'on n'arrêtera pas de fumer, hein. Donc, encore une fois, il faut rééquilibrer les choses et puis penser à son hygiène de vie. Agir contre tous les facteurs hein, qui peuvent nuire à la fertilité. Le tabac, je ne le dirai jamais assez, c'est pas bon pour la fertilité et pour la santé. Donc, il faut arrêter de fumer hein, quand on est dans un parcours de PMA, si on veut mettre toutes les chances de son côté. L'activité physique régulière adaptée, le régime alimentaire, le
Finalement, en fait,
sommeil.
c'est une approche globale. C'est bien de prendre des antioxydants, mais si on n'agit pas sur l'hygiène de vie, finalement,
Ça
ça
ne
n'a pas vraiment de
servira à
sens.
rien.
Donc, l'idée, c'est de vraiment agir. Et puis, évidemment, sur de compléments vitaminiques, etc., sachant que le cycle de la spermatogénèse est de 74 jours. Évidemment, j'imagine qu'il faut que ces traitements soient déjà pris sur un minimum de 3 mois, c'est ça? Parce que sinon, ça n'aura
Absolument.
pas d'intérêt. Et puis, surtout, je pense que une des choses que je ressors aussi de ce que vous avez dit, c'est que c'est important de demander conseil aussi à son médecin, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui existent et c'est du cas par cas. Et il vaut mieux se faire conseiller lorsqu'on choisit, en tout cas, de se lancer dans une supplémentation vitaminique pour pas faire n'importe quoi et que ça soit pas justement contre-productif dans la prise en charge.
Tout à fait. Et puis l'idée, c'est d'améliorer son quotidien, voilà, d'instaurer un nouveau mode de vie hein, pour les personnes qui seraient sédentaires ou les tabagiques. Ou, voilà, c'est vraiment, c'est une partie, ça fait partie de la prise en charge. C'est peut-être des consignes, ça reste des consignes thérapeutiques, mais qui vont agir justement dans le bon sens. Hein. Donc, ça va pousser quelque part le patient à améliorer son quotidien et à améliorer sa fertilité. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a une cause qui est mise en évidence et qui peut être traitée, on la traitera, on mettra en place un traitement sans retarder le projet parental. Très souvent, ce que je dis aux patients, c'est qu'il y a les deux feuilles de route. Il y a le projet parental, mais il y a la prise en charge andrologique, la prise en charge de l'infertilité masculine quand une cause est mise en évidence. Donc, il ne faut pas négliger les deux. Et il ne faut pas se précipiter, notamment lorsque le temps le permet, sur le projet parental, si on ne prépare pas le terrain correctement, aussi bien du côté de madame que du côté de monsieur.
C'est sûr, c'est intéressant. Et je rebondis un peu sur aussi les facteurs environnementaux, parce que actuellement, on voit qu'il y a pas mal d'études en cours qui mettent en évidence une diminution de l'infertilité masculine, qui probablement sont dues à tous ces facteurs environnementaux, donc qui soulignent encore de nouveau finalement cette importance de l'hygiène des vies, de faire attention aux perturbateurs endocriniens et tout ce genre de choses aussi, non?
Absolument. Je pense que l'homme du 21e siècle se souciera davantage de sa fertilité hein, par rapport à l'homme du 20e siècle.
Je crois que nous pouvons conclure avec cette phrase du docteur Daoun. L'homme du 21e siècle se souciera davantage de sa fertilité que l'homme du 20e siècle. Un grand merci à vous, docteur Daoud, pour votre temps, pour avoir répondu à toutes mes questions de manière si détaillée. Vraiment, ça a été riche d'informations pour moi-même et pour nos auditeurs et nos auditrices. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver donc le docteur Daoud à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Et également retrouver le centre de fertilité d'Institut Mutualiste Montsouris sur Instagram. Je vous mettrai les coordonnées en description. Et je vous dis à très bientôt. Merci.
Merci à vous, au revoir.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu et à me retrouver sur mon compte Instagram, Lisa Journia Coaching, pour échanger. À bientôt!